Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Après une dernière mésaventure sur la route de Saint-Jacques, Jean-Christophe Ruffin, rejoint par sa femme, va emprunter le chemin français pour les dernières étapes avant Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin français. J'avais réservé dans la seule pension que comptait la ville. Elle était située au-dessus d'un café. Le patron nous conduisit jusqu'à notre chambre. C'était un étouffant réduit meublé d'un grand lit défoncé et d'une armoire à l'agonie. Dès que le cafetier fut redescendu, nous nous précipitâmes pour ouvrir grand la fenêtre. Et là, après la soif, l'égarement et les taureaux, nous attendait l'ultime surprise, celle qui devait faire vaciller pour de bon notre courage. Elle donnait sur un mur. Il était situé à environ 30 cm. On aurait tout aussi bien pu empiler des parpaings sur la fenêtre, comme dans les maisons insalubres. Il n'aurait pas laissé passer moins de lumière ni moins d'air. Nous nous assîmes sur le lit, chacun de son côté. À cet instant, je découvris la forme suprême de solitude que peut éprouver le pèlerin. C'est celle qu'il ressent quand il est deux et que l'autre n'est pas encore habitué au chemin. J'osais une dernière défense. « Ça aurait pu être pire, » hasardai-je. Azeb tourna vers moi un regard épuisé. « Nous aurions pu dormir dehors ?» Elle haussa les épaules et nous partîmes d'un fou rire. Saint-Jacques avait mesuré notre détresse et il nous envoyait sa grâce. Cet égarement eut pourtant du bon. Il donna aux dernières étapes du chemin un caractère sauvage qui nous évitait la foule. Car l'approche de Santiago, par l'itinéraire classique, modifie l'ambiance du pèlerinage. Les marcheurs persévérants et venus de loin sont peu à peu noyés parmi les ouvriers de la dernière heure, ceux qui, en car, en avion, en stop, en train ou en soucoupe volante, veulent tout de même faire les derniers kilomètres à pied et entrer à Compostelle comme de vrais jacquets. Nous n'avions pas à craindre cette bousculade sur notre variante déserte. Pour éviter de nous perdre de nouveau, nous dûmes préparer soigneusement l'itinéraire sur une carte. Azeb, qui m'avait fait confiance une fois à ses dépens, insista pour que je lui montre chaque matin ce qui l'attendait. Faute d'un balisage précis, nous eûmes recours à la sécurité des routes, qui, heureusement, sont vides ou presque dans ces régions. Nous traversâmes d'interminables bois d'eucalyptus odorants qui rappelaient l'Éthiopie. Nous nous perdîmes une seule fois et cherchâmes longtemps dans un village désert une âme qui vive, susceptible de nous orienter. Finalement, nous l'avons trouvée dans le petit cimetière qui jouxtait l'église. Deux ouvriers maçonnaient un caveau. Ils sortirent de terre au moment où nous n'espérions plus rien et se relevèrent d'entre les morts pour nous montrer la voie. Une des seules personnes que nous rencontrâmes sur ce chemin perdu fut le pèlerin haut savoyard que j'avais croisé en Cantabrie. Il n'avait évidemment pas manqué cette occasion de s'égarer. Nous le vîmes d'abord passer en sens inverse dans un camion, puis revenir jusqu'à nous de sa démarche bancale. Il avait pris de l'avance, mais un pèlerin rencontré en route l'avait persuadé qu'il s'était trompé de direction. Il avait donc fait du stop, était revenu 10 km en arrière, avant de s'apercevoir qu'il était bien sur la bonne route, et maintenant, il revenait sur ses pas. Notre itinéraire nous amena finalement à un point connu, le beau monastère de Sobrado. Son église abbatiale est un petit Saint-Jacques miniature. Le monastère n'était pas encore tout à fait situé sur le chemin principal, mais il en constitue une variante classique, beaucoup plus fréquentée que la nôtre. Quand on l'atteint, on se sent déjà un peu arrivé. L'atmosphère y est bon enfant, joyeuse. Nous allâmes assister aux vêpres dans une salle aux murs couverts de boiseries modernes en chêne blond. L'ambiance n'était plus aux sombres autels baroques des sanctuaires de l'intérieur. Les dortoirs étaient occupés en majorité par de très jeunes gens, des amoureux pour la plupart, qui gloussaient et chuchotaient en riant. La trompe nasale du Savoyard retentit dès l'extinction des feux et déclencha des rires excités de gamine, autant de prétextes sans doute à papouille dans l'obscurité. J'avais repéré, en allant acheter des fruits au village le soir, la forte Autrichienne que j'avais croisée au Pays Basque. Elle s'était séparée de ses copines et avait l'air de bien s'amuser en compagnie de deux garçons. Boucles d'oreilles, tatouages et blousons à clous, il semblait tout droit sorti d'une rave party. Ses nouveaux camarades, la proximité de Saint-Jacques et les gros pétards qu'elle fumait concouraient à rendre mon Autrichienne rayonnante. J'en fus heureux pour elle. Nous quittâmes le monastère à regret le lendemain matin parce qu'il était beau, gai et parce que, désormais, nous allions rejoindre le chemin des foules sans pouvoir nous en échapper. C'était en quelque sorte notre adieu à la solitude. Nous abordions une ultime étape, celle de Compostelle avec ses avant-postes, ses redoutes, ses défenses et son cœur. Car depuis longtemps, Santiago n'est plus un village, le petit périmètre d'une basilique construite autour des reliques du saint. C'est devenu tout un monde, une vraie ville, et sa présence se fait sentir de loin. Nous rejoignîmes le chemin français dans un petit bourg. La sente étroite sur laquelle nous marchions déboucha tout à coup sur un large sentier, usé de pas. Pourtant, à notre grande surprise, il n'y avait personne. Nous empruntâmes le fameux et redouté chemin, en suivant des coquilles qui nous semblèrent plus grandes, ce qui était probablement une illusion. Au bout de quelques centaines de mètres, nous nous sentîmes à la fois soulagés et déçus. Soulagés parce que rien n'avait véritablement changé, déçus parce que nous nous attendions à plus d'animation. Bientôt, la raison de ce calme nous apparut, nous n'étions pas à l'heure. Sur le chemin français, les marcheurs sont si nombreux et les places d'auberge si précieuses que tout le monde se précipite le matin afin d'être parmi les premiers à l'étape. Sur notre Camino del Norte, tranquille, nous n'avions pas connu cette lutte pour les lignes et la course pour doubler les autres à l'arrivée, ni la ligne des sacs à dos posée devant la porte de l'auberge en attendant que l'hospitalier enregistre les pèlerins. Car, dans le monde impitoyable du chemin français, la place des mochillas dans la file indique l'ordre dans lequel les jaquets seront reçus. La voie royale du pèlerinage est victime de son succès, en particulier à l'approche de Compostelle. Partout ailleurs, sur les autres chemins, les pèlerins en petit nombre disparaissent dans le paysage. Sur le chemin français, ils sont au premier plan. L'environnement s'est adapté à eux. Des publicités leur sont destinées. Des lieux de ravitaillement ou d'hébergement d'une taille considérable les accueillent. Des boutiques vivent de cette clientèle, nombreuses à défaut d'être prodigues. L'ingéniosité des marchands du temple est, on le sait, sans borne. Dans ces régions pauvres, ils ont su tirer parti de la présence des pèlerins en proposant des gammes de services ingénieuses qui leur sont destinées. Ainsi la Mochilla Express. Ce système de taxi pour les bagages permet aux marcheurs de se délivrer de leur sac à dos et de le retrouver à l'étape.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.